Bonjour frères et sœurs. Quelques psaumes on a chanté aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on va étudier un psaume. Ça nous parle vraiment. Nous avons, et avec joie, je vous ai vu et vous m'avez vu. Et, avec joie, célébré, nous avons adoré aussi par nos offrandes, par nos cœurs aussi, nos prières aussi. Maintenant, nous allons écouter ce que Dieu. Voilà les trois piliers essentiel pour un culte, pour notre culte. C'est ça qui parle ce psaume-là. Nous avons célébré, nous avons adoré, maintenant nous allons écouter. Comme à chaque dimanche, nous réunissions, comme ce qu'on appelle les premiers chrétiens ont appelé ça le jour du Seigneur, le jour où Jésus est ressuscité, le premier jour de la semaine. Et c'est pour ça que nous sommes là ici pour le célébrer, sa résurrection, pour notre salut, pour nous sauver. Et comme je dis, ce sont précisément ces trois mouvements qui se trouvent au cœur de ces psaumes. Aujourd'hui, nous allons étudier les psaumes, vous avez vu dans votre bulletin, les psaumes 95. Okay? Donc, je vous invite déjà à aller un peu dans vos téléphones ou sur vos feuilles, sur votre Bible en papier, le psaume 95. On va rester pas mal dans le psaume 95, là. Donc, ce chant de louange, c'était un chant de louange, était probablement utilisé lors de la période du Second Temple. Vous vous rappelez, Néhémie et Esdras, quand ils sont revenus de l'exil, là, probablement, ils l'ont utilisé beaucoup là, mais ça ne veut pas dire que je suis juste là, dans toutes les célébrations du peuple de Dieu, pour célébrer la fidélité de Dieu envers le peuple. Et surtout, dans cette époque, le peuple devait apprendre encore à vivre dans l'alliance que Dieu avait laissée à Moïse. On l'employait aussi par des grandes fêtes, des pèlerinages, comme celle des tabernacles, et alors que le peuple est entré dans le parvis du temple, dans l'ancienne alliance, ce psaume préparait le cœur des fidèles pour le culte, pour l'assemblée, et passant d'un appel joyeux à la louange à une exhortation solennelle à l'obéissance. Nous allons le voir. Pour nous maintenant, qui vivons dans la nouvelle alliance en Jésus, ce texte reste d'une grande pertinence lorsque nous nous réunissons en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Donc, ces psaumes-là, ils nous encouragent à célébrer notre Sauveur, à adorer le bon berger et à plier humblement le genou devant lui. Mais il nous exhorte surtout, au par-dessus tout, je peux dire ça, à écouter sa voix et à lui obéir. Donc, je vous invite maintenant à lire ce psaume 95. Ça va varier un peu selon votre version de la Bible que vous avez. Ça se peut que vous avez la français courant, Semeur, 1910, Louis II. Nous utilisons ici la Colombe, 1978. Donc, ça ressemble beaucoup, mais c'est bon, ça enrichit notre réflexion parce que des fois, il y a des paroles qui sont utilisées différemment, mais c'est des synonymes. Ou des fois, les Bibles, ça nous explique un peu plus de ce que l'auteur est en train de dire. Donc, lisons le psaume 95. Ça commence. « Allons acclamer l'Éternel. Lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes. Lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent. Éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça finit très, comment je dis, très fort. Une bonne, une bonne exhortation de la part de Dieu lui-même. Mais ça commence très bien. Ça commence bien, je dirais, et ça finit bien aussi. Nous allons voir. C'est la parole de Dieu. Donc, on pourrait résumer ces psaumes-là dans une seule phrase. Célébrons, adorons et écoutons notre Dieu avec un cœur transformé. Si on retient ça, c'est bon. Donc, célébrons, adorons et écoutons notre Dieu avec un cœur transformé. Donc, nous allons étudier ce psaume-là en trois points. Okay? Versets 1 à 5, célébrons notre Dieu sauveur. Versets 6 à 7, la première partie, adorons notre Dieu créateur. Et le verset 7, la deuxième partie jusqu'à la fin, verset 11, écoutons notre Dieu souverain. Trois points, comme un bon baptiste. Donc, il est important de noter, on va aller dans le premier point, verset 1 à 5, là, on va se concentrer de verset 1 à 5. C'est important de noter que ce psaume s'adressait au peuple de Dieu assemblé, comme nous le sommes aujourd'hui. Le peuple était réuni, tous ensemble. Il ne se dirige pas à une personne. Ce n'est pas un psaume qu'on peut dire très personnel. Vous vous rappelez, la semaine passée, qu'on a vu, c'est le psaume 51. C'est qui? C'est David qui parle personnellement à Dieu. Et mon frère a prêché le psaume 103. « Mon âme, bénis l'Éternel. » Donc, il parle à son âme. Donc, c'est très personnel. Maintenant, ce psaume-là, c'est une invitation pour tout, pour nous tous. En premier lieu, pour le peuple de Dieu à leur époque, là, ok, mais maintenant, pour nous tous. C'est une invitation à louer Dieu. Dans les deux premiers versets, ok, en 5, dans le premier verset, le psalmiste nous indique la manière comment le louer. Et dans les versets 3 à 5, les raisons pour lesquelles il faut louer. Donc, ce chant commence en ces mots. Nous l'avons vu, là, dans ces mots-là, ce chant-là. Allons, acclamons, crions, si on peut dire, l'Éternel, allons devant de lui, il dit. Mais comment? Avec tristesse? Non. Il dit, lançons avec allégresse, lançons une joyeuse clameur au rocher de notre salut, avec allégresse. Je sais que la seconde, il écrit avec allégresse. Ici, on lit, lançons une joyeuse clameur. Il dit, lançons joyeuse clameur. Dans d'autres versions, nous lisons aussi, avec des cris de joie. On l'a chanté tantôt, hein, ça tombe bien. Avec des cris de joie. Mais il ajoute également, célébrons avec des psaumes, c'est-à-dire des cantiques. Et le terme utilisé est particulier, est significatif, ce terme-là, psaume. OK? Ce terme-là, ce n'est pas seulement de la musique. C'est un chant dans le cœur même et la reconnaissance, action de grâce. C'est une louange. Donc, une louange dans action de grâce n'est qu'un bruit, n'est qu'un chant. Une louange qui est action de grâce est un hommage à quoi? On l'a chanté à la fidélité de Dieu, dont c'est le fruit de notre compréhension intellectuelle, spirituelle aussi, des deux réalités. Qui est Dieu? On le voit dans les premiers versets, et ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait aussi. Donc, le psalmiste invite le peuple à célébrer l'Éternel et utilise une expression significative. Vous l'avez vu, concernant Dieu. Qu'est-ce qu'il dit de Dieu? Le rocher de notre salut. Et dans l'Ancien Testament, l'image d'un rocher est récurrente pour désigner Dieu comme un refuge inébranlable, un rocher. Pour nous, c'est... Oui, c'est bien, là, mais je pense que dans le temps, là, c'était vraiment significatif. Le rocher de notre salut. Dans le cantique de Moïse, dans Deutéronome, Moïse l'appelle déjà le rocher de son salut. Dans Deutéronome 31, je crois, 32, c'est le cantique de Moïse. Il appelle le rocher de son salut. Dans 2 Samuel, David même chante en disant, « Vive l'Éternel, il dit, et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » Probablement, dans ce psaume-là, le psalmiste faisait peut-être référence au rocher qui avait été frappé à Horeb dans le désert. Ça, on le voit dans le chapitre 17 de l'Exode. Le peuple assoiffé, si on résume, Le peuple est assoiffé, ils murmurent contre Moïse. Pourtant, ils ont vu les miracles que Dieu a faits. Mais ils murmurent contre Moïse, doutant de la présence de Dieu. Est-ce qu'il Dieu est vraiment avec nous? Pourtant, ils l'ont vu. Et Dieu ordonne à Moïse de frapper le rocher et de l'eau surgit pour sauver le peuple de la mort par la soif. Dans ce psaume-là, c'est déjà une bonne raison pour louer et chanter et célébrer l'Éternel. Mais le psalmiste nous donne aussi d'autres raisons importantes. Et vous allons le voir là dans le verset 3 à 5. Et d'autres raisons importantes pour le louer, pour le célébrer. L'Éternel est un grand Dieu, dit le verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Ça veut dire quoi ça? Il est grand? Oui. Non, on ne peut pas avoir Dieu là, mais il est fort, il est puissant. Il est un grand Dieu. Il est un grand roi, ça évoque sa souveraineté. Il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Ça veut pas dire qu'il y en a d'autres dieux. Non, les dieux, les idoles que les autres peuples adoraient, les idoles qui ne bougeaient pas, ce n'est pas des dieux vraiment, mais il dit, l'Éternel est plus grand que tous ces idoles-là. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Imaginez là, des fois c'est quoi les profondeurs de la terre? C'est les bases de la terre, si on peut dire, symboliquement parlant. Il dit qu'il tient dans sa main, et sa main est grande, hein? Très grande. Et il tient dans sa main la profondeur de la terre. Les sommets des montagnes, la mer et la terre sont à qui? Sont à lui, il dit le psaume. C'est lui qui les a faites et ses mains l'ont formé. En résumé, le psalmiste dit, il est le seul grand Dieu, créateur de tout, et tout lui appartient. Tout est à lui. Quand nous lisons cette invitation faite au peuple de Dieu à l'époque, elle est aussi pour nous, comme je l'ai dit tantôt, le nouveau peuple de Dieu, l'Église. Aujourd'hui, cette parole résonne avec une force particulière, car le rocher de notre salut n'est plus seulement une ancienne expression. Elle est une réalité pour nous, manifestée en qui? En Jésus. Où nous voyons ça, que Jésus est notre rocher? L'apôtre Paul nous le confirme, le rocher spirituel qui suivait Israël dans le désert, c'était Christ. Je vais juste citer, vous pouvez après le lire, 1 Corinthiens 10, 1 à 4, il dit, frère, Paul il parle à l'Église, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuit, là, il parle du désert, là, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit, c'est très symbolique, hein? Et dans la mer aussi. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Là, il parle de l'ancienne alliance, des temps qui sont dans le désert du peuple, il dit, qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Ce rocher est Christ, le rocher de notre salut. Tout comme ce rocher a été frappé pour combler de soif le peuple dans le désert, c'est très symbolique aussi, Jésus a été frappé sur la croix pour nous. C'est là, par son sacrifice, qu'il fait jaillir la vie éternelle pour quiconque a soif, comme le dit l'Évangile de Jean ou aussi l'Apocalypse. Donc célébrer ce rocher et donc reconnaître celui qui a porté notre châtiment pour nous donner la vie. Mais notre louange, maintenant, aujourd'hui, va plus loin encore. Jésus n'est pas seulement notre sauveur. Oui, c'est vrai, il est notre sauveur. Il est le Dieu créateur aussi. Hey, attention, Ronald, le Dieu créateur, oui, Jésus est Dieu lui-même, et aussi créateur. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'il a participé activement à la création. Tout a été fait par lui et pour lui. Et sans lui, rien de ce qui existe n'aurait pu voir le jour. Qui dit ça? C'est Jean dans son évangile, le premier chapitre. Donc, lorsque nous chantons ces versets du psaume 95, notre louange devient, on peut dire, dans les temps, était partiel, ok? Dans les temps des psaumes. Mais maintenant, c'est comme total, complète. Nous célébrons celui qui a formé les montagnes, et les profondeurs de la mer, celui qui a créé l'univers, ses propres mains, et qui, dans son amour infini, s'est fait homme. Pourquoi?
pour nous sauver.
L'apôtre Paul mentionne dans Éphésiens 5, il dit « Entraînez-vous par des psaumes », on l'a fait aujourd'hui, « Entraînez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » Écoutez bien là, des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. « Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. » C'est qui? Chantez et célébrez qui? Le Seigneur. Oui, je sais qu'il y en a qui vont dire « Oui, c'est, mais grand Seigneur, c'est Dieu. » Mais si vous lisez tous ces chapitres-là, et le Seigneur, c'est Jésus. Mais c'est Dieu. C'est bien, il n'est pas en train de dire autre chose, mais célébrez le Seigneur de tout votre cœur, de tout votre cœur. Plus clair encore, dans l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. C'est le chapitre 1. Le chapitre 5, on l'a chanté, l'agneau qui était immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et la louange. Donc, frères et sœurs, si nous sommes réunis ici, c'est parce que Jésus nous a libérés. Donc, alors, célébrons avec une joie profonde et sincère la grandeur de notre Dieu et Sauveur. Avec joie profonde. Avec allégresse. Est-ce qu'on l'a fait ce matin? Oui. J'ai entendu un bruit ici, plus fort qu'ici. Donc, peut-être vous chantez moins d'allégresse? Non, je vous taquine. Mais l'allégresse, avec joie. Quand nous chantons, c'est avec joie. Nous ne chantons pas avec des cris de joie, ma bouche te chante. Non. Moi, je ne veux pas dire que chacun de nous, nous exprimons notre allégresse différemment. Ça, c'est vrai. Si vous m'aviez regardé, je lèverais mes mains. Moi, je lève les mains comme ça. Moi, je suis un peu gêné, OK? Il y en a d'autres qui... OK? Mais c'est l'expression de... Dieu nous a fait différents, nous tous. Mais ce qui est important, c'est le faire d'un cœur joyeux. OK? Joyeux. Mais l'extrême, non plus, c'est pas... Je pense que c'est pas bon. Il faut vraiment penser et venir avec joie célébrer notre Dieu, avec joie, et que ça se voit. Nous connaissons, nous connaissons chacun, c'est bon d'être une assemblée là où nous connaissons des fois personnellement, et nous savons comment nous sommes. Et je sais quand ma sœur est joyeuse ou pas joyeuse, je le sais, on le voit des fois, tous ceux qui nous connaissons le plus. Donc, ces psaumes nous exhortent, nous encouragent à le faire avec allégresse. Des fois, on dit, bon, mais venez à l'église, laissez dans la porte vos peines, là, puis venez louer le Seigneur avec joie. C'est vrai, mais moi, je dirais plutôt, venez avec vos peines, là, puis laissez aux pieds du Seigneur et louez avec joie. Parce qu'après, vous allez sortir, vous allez reprendre vos... Donc, laissez-les pas à la porte. Donc, venez devant lui avec allégresse. Célébrez. Je sais, mes frères et sœurs, je ne veux pas dire que si vous êtes dans le deuil aujourd'hui, avec une peine extrême, je ne veux pas dire que pourquoi vous ne souriez pas. Non, il y a un temps pour tout. Et Dieu permet dans nos vies des temps difficiles des fois. Mais ça ne veut pas dire que nous avons la joie de notre salut, du rocher de notre salut. Mais nous devons l'exprimer quand même. Ne pas l'exprimer quand nous le pouvons, ça je crois que... Nous devons réfléchir à ça, avec allégresse, avec joie. Deuxième point. Adorons notre Dieu créateur, verset 6 à la première partie du verset 7. Venez, il dit, là, mais encore une autre appel. Tantôt, il dit, allons. OK? Maintenant, il dit une invitation. Venez, prosternons-nous. Qu'est-ce que ça veut dire, prosternons-nous? C'est adorer. Le mot, là, c'est vraiment adorer. C'est le même mot qu'il utilise quand Abraham y va avec Isaac, et après il dit, après nous allons adorer, il mentionne Abraham, c'est le même mot. Prosternons-nous. Les autres, c'est des synonymes. Courbons-nous. Et ça, on dirait que ça va de plus en plus. Courbons-nous. Un peu plus courbé. Prosternons-nous. Soyons, comment je peux dire, humbles devant sa face, devant notre Créateur. Courbons-nous, fléchissons le genou, très physique, là, très visuel, devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a fait, il nous a fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Au début du psaume, nous avons vu Dieu comme le créateur. Nous avons vu tantôt de l'univers, celui qui a fait les montagnes, la mer. Mais ici, le ton devient encore plus proche, plus personnel, plus intime. Le psalmiste nous rappelle une vérité fondamentale. C'est même Dieu qui a créé le monde. Il nous a créés nous-mêmes physiquement. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Il nous a façonnés, c'est lui qui nous a créés. Et en plus de ça, nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Pour le peuple juif, et puis il dit, il est celui qui, sa main conduit, c'est le pâturage. Okay? Donc, pour le peuple juif, l'image d'un pâturage, des pâturages, était chargée d'essence. Elle rappelait Dieu toujours, qui dit toujours agit et comme un berger envers son peuple. Lorsque Jacob bénit ses enfants, avant de mourir, même avant l'Exode, là, même avant le désert, il mentionne dans la Genèse 49-24, il bénit ses enfants, il dit, « Par les mains du puissant de Jacob, il est aussi devenu le berger. » Il dit. Le berger, et il rajoute en plus, « Le rocher d'Israël. » Nous savons aussi que dans le désert, Dieu a conduit son peuple avec une patience infini, si on peut dire. Et le psaume 67-21 le dit, « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Vous savez, la révélation de Dieu est progressive aussi, même dans l'Ancien Testament. Ésaïe a annoncé un berger qui venait. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Ésaïe 41:11, comme un berger, il fera paître son troupeau. Savez-vous que ce berger est arrivé? Pour nous, l'Église, mes frères et sœurs, cette invitation est encore plus profonde. Nous savons que Jésus, non seulement est le rocher de notre salut, mais il est aussi le bon berger. Vous vous rappelez de ces paroles dans Jean 10:11? Moi, dit Jésus, moi, je suis le bon berger. Et qu'est-ce que la suite? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En lui, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Jésus n'est pas seulement le berger, il est celui qui a donné sa vie pour nous sauver et qui a fait de nous de nouvelles créatures. Non seulement il a donné sa vie, il nous a donné la vie en lui-même. Il nous a recréés, si on peut dire. Donc l'apôtre Paul mentionne dans Philippiens aussi, dans Philippiens 2, qu'un jour, tout genou fléchira devant Jésus. Tout genou fléchira devant Jésus. Donc pour nous aujourd'hui, nous prosterner, nous courber, fléchir les genoux devant lui, c'est répondre à son amour, à l'amour de notre berger qui nous conduit par notre nom, il nous connaît par notre nom, qui prend soin de nous à chaque jour, qui nous conduit avec tendresse. Alors, venons humblement devant lui, reconnaissant qu'il est notre sauveur, créateur, il est notre berger, celui qui nous guide et qui nous aime. Il est digne de toute adoration. Si ce psaume nous invite à adorer, Jésus va plus loin encore. Il nous révèle que adorer l'Éternel, Jésus va plus loin encore. Il nous révèle que le Père cherche et même demande des adorateurs. Des vrais adorateurs, même, il dit. Ça veut dire qu'il y avait des faux adorateurs. Il y a des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Donc, se prosterner devant, alors, est un acte authentique par lequel notre vie entière, corps, esprit et volonté, répond à l'appel divin. Se prosterner devant notre Dieu. Oui, c'est une affaire de cœur, comme on dit. C'est notre cœur qui se prosterne devant le Dieu, grand Dieu que nous avons. Et le psaume nous dit, et ça faisait partie des célébrations dans le temps. Et si vous voyez les réunions qu'il y avait, les assemblées, des fois le peuple voir les miracles des fois de Dieu, les prouesses qu'il faisait, il s'est prosterné à terre pour adorer son Dieu, son Créateur, leur Sauveur. Nous n'avons pas tellement cette habitude ou cette façon de faire, de s'agenouiller. Des fois, on a un peu la misère à cause que, bon, des fois, ça peut devenir un rituel, comme d'autres religions, je ne vais pas dire le nom, là, mais qui s'agenouille en face de n'importe quoi, ou au milieu de la rue, ou dans une chambre, par juste pure tradition. Mais c'est bon de se courber. Vraiment, frères et sœurs, de se courber, de plier nos genoux devant Dieu. C'est bon de le faire. J'espère que vous le faites. Là, quand Jésus dit, prie ton Père dans ta chambre, tout seul, et adore-le. Plie tes genoux devant lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire maintenant. Non. D'ailleurs, ça fait partie de nos rassemblements. Ça fait partie. L'adoration, ça fait partie. Oui, je sais que c'est une affaire de cœur. C'est vrai. Mais c'est l'expression aussi qui est importante. Maintenant, écoutons comment le psalmiste termine le psaume 95, verset 7, la deuxième partie, jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il dit, c'est la deuxième partie, si vous entendez sa voix, il y en a qui n'écoutent pas sa voix, hein, mais si vous l'entendez, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, me prouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreraient pas dans mon repos. Certains commentateurs affirment que cette dernière partie semble être déconnecté du reste. Et pourtant, ce psaume-là est une, si on le voit, le tout est une unité magnifique, car il nous lance les trois invitations qui sont indissociables. Qu'est-ce qu'il dit? Célébrer Dieu, adorer Dieu, et quoi d'autre? Et surtout, l'écouter. Donc, le psalmiste fait ici référence à l'épisode de Massa et Meriba dans le désert, Exode 17. Meriba signifie contestation, et Massa, épreuve. Il lutte contre Dieu, contestation, épreuve. Le peuple assoiffé, douté de la présence de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, au milieu de lui. Et ce doute a conduit à l'endurcissement de leur cœur. Et ce dégoût qui parle, Dieu, de la part de Dieu, que le psalmiste mentionne, n'est pas seulement une tristesse, c'est sûr que c'est triste de voir ce peuple-là. Dieu avait pourvu de tout, puis il se tourne vers lui. Mais c'est aussi l'indignation de Dieu face à un peuple qui, malgré les miracles, il refusait de lui faire confiance. D'ailleurs, c'est-à-dire de croire en lui. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce psaume-là? Il dit que je jurai, ils n'entreront pas dans mon repos. Et le thème du repos est central et parcourt toutes les Écritures. On pourrait développer beaucoup ça, mais je vais aller dans l'essentiel. Dans Deutéronome 12, Moïse rappelle au peuple, « Car vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu du repos, dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Okay? » Il parle du repos. Pour eux, pour le peuple de Dieu, c'était quoi ce repos-là? C'était la terre promise. Là, ils allaient se reposer. Ils vraiment l'ont fait. Et les ennemis se sont dispersés. Dieu a fait en sorte que ce soit comme ça. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de vos ennemis. C'est ce qu'il dit, Moïse. Pour Israël, donc, ce repos était la promesse d'une terre où ils seraient enfin en sécurité face à leurs ennemis. Pourtant, à cause de leur cœur endurci, cette génération a erré pendant 40 ans. Ils ont tourné en rond, privés de l'héritage promis à cause de leur refus de croire à la promesse de Dieu. Aujourd'hui, Je ne parle pas du mot aujourd'hui pour nous. Comment comprenons-nous ce repos? Et savez-vous que l'Épître aux Hébreux, dans les chapitres 3 à 4, on ne peut pas lire tout, j'aurais voulu, mais là on n'a pas le temps, 3 à 4 éclaire cette histoire. Je crois que l'Épître aux Hébreux, c'est une des livres du Nouveau Testament qui interprète un long passage, le plus long passage, je crois, qui interprète. Il y en a plusieurs, là. Et Paul, Pierre, ils font beaucoup de références à l'Ancien Testament, à des prophéties. Matthieu, quand vous lisez Matthieu, il se réfère beaucoup à des prophéties. Mais ce qui est particulier pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il explique ce texte-là du psaume et même de l'événement de Exode 17. Donc, rapidement, Hébreux 7, 3, 7 à 11, cite le verset 7 à 11 justement de ce verset-là. C'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, mais là il change, il dit, c'est pourquoi ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos corps, et là il continue. Donc l'auteur montre que ce psaume est une parole actuelle du Saint-Esprit, aujourd'hui pour nous. Il avertit que l'incrédulité, comme celle d'Israël ou d'Ézéchiel, empêche d'écouter au repos promis par Dieu. Dans Hébreux 4, 3, cite le verset 11, selon ce qu'il a dit. Je jurerai dans ma colère, il n'entrera pas dans mon repos. Et encore plus loin, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc, c'est-à-dire pour nous, les chrétiens qui nous avons cru, nous entrons dans ce repos. Donc, ce repos, pour nous, définit le repos de Dieu comme une réalité spirituelle, la confiance totale en l'œuvre de Christ pour notre salut. Et le rejeter comme chrétien par l'incrédulité, c'est comme s'exclure soi-même de ce repos que nous avons déjà ce repos-là. Mais nous allons avoir le repos complet après, avec Dieu. Hébreux 4, 7 cite encore le verset 7. Il dit, Dieu fixe de nouveau un jour. C'est ça qu'Hébreux dit. Dieu fixe, en parlant de ce qu'on a lu dans le psaume 95, Dieu cite de nouveau un jour aujourd'hui, disant dans David, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Savez-vous que l'Épître aux Hébreux attribue ce passage, ce psaume à David. Il dit, il parle à la bouche de David. Il parle du Saint-Esprit qui parle par la bouche de David. Dans les psaumes, si nous lisons, il n'y a rien qui nous indique que c'est David qui l'écrit. Mais je ne suis pas sûr parce que des fois, dans l'Ancien Testament, on parle des psaumes comme c'est généralement écrit par David. Probablement, ce psaume a été écrit par David. Mais ce qui est important, c'est que c'est par la bouche, c'est de David, mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu parle. Donc, l'insistance sur le mot « aujourd'hui » démontre que l'invitation de Dieu n'appartient pas au passé. C'est un appel immédiat, urgent, qui demeure ouvert à chaque croyant. C'est au croyant qui est en train d'écrire l'auteur des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Donc, rappelons-nous de son appel, surtout de l'appel de notre berger. Qu'est-ce qu'il dit? Vous le connaissez par cœur. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. C'est encore une invitation. Hein? Jésus invite. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Êtes-vous fatigués? Je ne dis pas physiquement. Là. On est presque tous là, je crois. Il y en a qui ont la misère à se lever les dimanches. Là. Ils sont fatigués. Non, mais il parle de dimension spirituelle ici. Cherchant Dieu. Fatigué. Chargé. Et je vous donnerai du repos. Donc, aller à Jésus pour trouver du repos implique s'abandonner, abandonner nos propres chemins, notre orgueil même. Donc, obéir à Jésus a un coût, celui de renoncer de nos propres désirs, mais désobéir à cet appel a un coût plus grand encore, c'est de rester fatigué et chargé sans jamais connaître le repos promis par Dieu. En écoutant Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté absolue sur nos vies. Donc, écouter Dieu, frères et sœurs, et lui obéir sont indissociables. C'est vrai qu'on entend ça, écouter. Si vous écoutez sa voix, mais obéir, ça va avec le fait d'écouter Dieu. On ne peut pas prétendre d'écouter tout en refusant de se soumettre à Dieu, à sa direction. L'adoration n'est pas seulement faite des chants de révérence. Elle est essentiellement une réponse d'obéissance concrète à la parole de notre Dieu souverain. D'ailleurs, Jésus lui-même nous met en garde clairement dans Matthieu 7, 21. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui seul qui fait la volonté de mon Père. C'est-à-dire, celui seul qui obéit, qui écoute la voix et qui obéit. Donc cette parole souligne que l'entrée dans son repos n'est pas réservée à ceux qui se contentent des paroles, mais à ceux dont la vie est accordée à sa volonté, en obéissance. Donc n'est pas écouté comme chrétien, comme croyant, et tenter, c'est tenter Dieu par notre incrédulité. Écouter, c'est accepter d'être conduit par le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et savez-vous, Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. C'est bon ça? Il écoute ma voix, je les entends, je les connais, et elles me suivent. Donc, obéissant, ils écoutent la voix de Dieu, mais ils obéissent en même temps. Donc, comme conclusion, revenons sur les structures de ces psaumes-là. Le psaume 95 nous rappelle que l'adoration authentique comporte, peut-être, si on peut résumer, deux dimensions. Le fait de parler à Dieu, chanter, célébrer, on parle, on prie aussi, et le fait d'écouter Dieu, parler, dire, l'exprimer par nos louanges, notre célébration, mais de l'écouter. Donc le verset 1 à 7 invite le peuple à venir devant l'Éternel avec des chants, des actions de grâce, d'une humble adoration. Puis après le verset 7, la deuxième partie, la direction s'inverse. Dieu s'adresse à son peuple. Et certains se sont demandé pourquoi ces chants de célébration se terminent par un avertissement si solennel, si fort aussi. En réalité, cet avertissement fait partie intégrante du culte rendu à Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et c'est important de voir ça. Et nous le faisons aussi maintenant, comme Église, comme peuple de Dieu rassemblé. OK? Donc, si on voit dans l'Ancien Testament, dans toute l'histoire biblique, le rassemblement du peuple de Dieu n'était jamais une fin en soi, c'est-à-dire juste se rassembler pour se rassembler. C'était le cadre privilégié du peuple de Dieu pour une véritable rencontre avec lui, pour que Dieu se manifeste à lui, pour les guider. Pensez à l'Exode 19-20, si vous lisez les deux chapitres 19 à 20, Israël est rassemblé au pied du Sinaï pour que Dieu puisse, quoi, parler et leur donner la loi. Ils sont tous rassemblés avec des trompettes. Ça fait partie du rassemblement. Et Dieu parle. Pensez aussi dans Deutéronome 31, où le peuple est expressément convoqué pour entendre la lecture de la loi afin d'apprendre à le craindre. Tous sont tous assemblés. Ou pensez encore à Josué 8, 30 à 35, où après avoir rendu un culte à l'Éternel, ils ont lué un chanté, Josué lit toutes les paroles de la loi devant l'Assemblée. Voyez le mouvement, la célébration, l'adoration. Sinon, pensez aussi à Néhémie, où tout le peuple se rassemble, okay? Ils sont rassemblés comme un seul homme pour demander que la parole de Dieu soit lue. On lit dans Néhémie 8, 2 à 3, il dit « Esdras apporta la loi devant l'Assemblée et il lut dans le livre depuis l'aube jusqu'au milieu du jour. » Wow! Mais avant ça, ils ont célébré aussi. Et les peuples pleuraient en entendant la voix. Ils étaient touchés parce que Dieu parlait à leur cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? Néhémie, qu'est-ce qu'il dit? Esdras dit, ne soyez pas dans la tristesse. Réjouissez-vous, il dit. Voyez un peu le mouvement. Moi, j'ai essayé, en tout cas, cette semaine, je lisais plusieurs fois ce psaume-là. J'ai essayé de chercher. Mais pourquoi ces trois mouvements sont là. Pourquoi cet avertissement? Mais ça fait partie, frères et sœurs, de nos réunions. Nous serons réunis dans ce but-là pour que Dieu nous parle, non seulement par des chants, par sa parole. Donc le culte n'est pas seulement le moment où nous parlons à Dieu, c'est le moment où Dieu nous parle. Et ça, là, des fois, en lisant, c'est vrai que c'est un style, excusez-moi, que les auteurs utilisent, ok, ils changent des fois à la troisième personne, à la première personne. Mais c'est intéressant ici, là, vous l'avez remarqué dans vos Bibles, à partir du verset 7, comment commence le verset 1? Allez acclamer l'Éternel. Qui parle? Le psalmiste. Ultimement, c'est Dieu qui parle, ok? Mais c'est le psalmiste qui écrit, il dit, allez, allons, célébrons. Mais écoutez le verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, là, il commence, progressivement, ne dites pas votre cœur, comme à Meriva, comme à la journée de Massa, ou vos pères me tentèrent. Là, il est en train de parler à la première personne. Mais prouvèrent bien qu'il vit mon action. Là, il est en train, c'est Dieu qui est en train de leur parler. Personnellement, c'est Dieu qui parle dans ces psaumes-là. C'est pour ça, pour nous aujourd'hui, lorsque nous rassemblons la célébration par nos cantiques, nos louanges, nos prières même, notre adoration, n'est pas qu'une préparation, c'est la disposition de nos cœurs. Pourquoi? Pour entendre le message de sa parole. Et je dis le message de sa parole, pas de ma parole, le message de sa parole. Je suis juste un instrument pour partager ce que Dieu parle. Je me concentre juste à ce que le texte dit. Donc la louange et la prière nous préparent à l'écoute de sa parole. Si nous nous rassemblons uniquement pour chanter, sans nous disposer à écouter, donc nous manquons le but de notre rassemblement comme peuple de Dieu, comme Église. Mais lorsque nous venons pour célébrer celui qui est notre sauveur, créateur, berger, nous nous plaçons dans une position d'humilité où sa voix peut nous transformer, consoler, édifier, corriger, instruire. Je suis en train de citer quoi? Timothée 3,16, 2 Timothée 3,16. Mais savez-vous, là, si vous lisez Hébreux 3 et 4, vous allez voir que si vous tendez sa voix, la voix aujourd'hui, là, à la fin, il dit, car la parole de Dieu est comme une épée. Waouh! Il parle de la parole de Dieu. Non, ne venons pas au culte avec un cœur endurci ou amer, comme celui du peuple dans le désert. Venons avec soif, une soif d'entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Ça paraît fort comment Dieu parle dans ce psaume-là, mais écoutez ce que Dieu, et non seulement Dieu, Jésus lui-même, il parle au message aux Églises. Je vous vomirai de ma bouche. Ou quand il dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Quelqu'un entend ma voix. Et c'est dur, hein, dans ce passage-là, parce que Jésus est dehors. Je suis à la porte. Donc, ils ont mis Jésus dehors. Il dit, j'entends, je frappe si vous entendez ma voix. Aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, si aujourd'hui, si vous entendez sa voix, sachez que le mot aujourd'hui est la clé. Dieu ne nous parle pas au passé maintenant, il nous parle maintenant, avec autorité de sa propre voix, par sa parole. Il est d'ailleurs frappant de voir dans ces psaumes comment le langage change, comme j'ai dit, de la troisième personne à la première personne. Donc pour conclure, je veux laisser résonner dans vos cœurs ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions, des grâces. Vous voyez, tous les éléments sont là. À Dieu, le Père, Et comme le rappelle l'Épître aux Hébreux, l'Esprit nous parle dans ce psaume, dans ce psaume-là. Alors, frères et sœurs, par l'Esprit, célébrons, adorons, écoutons notre Dieu, le rocher de notre salut, avec un cœur transformé. Amen.